Boomerang avec Izia Higelin, une émission autour de la voix, ses histoires, ses épreuves, ses variations. C'est parti. Pourquoi est-ce que votre voix s'élève? Pour qui ou pourquoi est-ce que vous en donnez de la voix? Qu'est-ce qui la porte? Qu'est-ce qui la nourrit? Qu'est-ce qui la fait vibrer? J'ai noté sur un bout de papier tout ce qui emballe la mienne. La peur d'abord. Êtes-vous comme moi de ce que la peur fait crier? La mort, que j'associe moins à un cri qu'à une longue mélopée. Le refrain, plus que la mélodie, c'est toujours ce qui me fait chanter. L'amour, qui fait que l'on s'emporte et que l'on ne peut plus s'arrêter de parler. Le silence aussi, parfois, donne de la voix. Il s'agit de le combler. Silence quand on est seul, silence de l'autre, silence de celles et ceux qui pourraient parler, dont on attend qu'ils parlent, mais qui ne parlent pas. La lutte, de l'indignation à la révolte, c'est aussi l'occasion d'élever la voix. La joie, pour moi, elle ne va pas sans parole, sans geste, sans cri. Et puis, la poésie, ça c'est quand elle vibre, la voix. Et vous, tiens, vous, quand est-ce que vous la faites vibrer, votre voix?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. À quoi mon invité d'aujourd'hui donne-t-elle voix? Comédienne, musicienne, chanteuse, son quatrième album Citadelle électrisait notre automne. Elle est actuellement en tournée et sera ce soir sur la scène du studio 104 de Radio France. Elle est venue s'échauffer dans notre émission parce qu'elle est comme ça. Bonjour Izia.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, pour qui ou pourquoi est-ce que votre voix s'élève, vous?
Pour les gens, non mais vraiment... Pour les gens, pour mon cœur aussi. Enfin, je sais que la question, c'est un peu pourquoi elle s'élève de manière générale, mais je pense immédiatement à mon public, en fait. C'est la première chose à laquelle je pense, c'est chanter pour eux, leur transmettre quelque chose, quoi.
Et qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous mettez en chanter? Par quoi est-ce que vous êtes traversé très concrètement, très physiquement?
Par énormément d'émotions, de sentiments. Je pleure beaucoup quand je chante, je ris quand je chante, je souris quand je chante.
Vous pleurez beaucoup?
Ouais. Mais sur scène, je peux être extrêmement émue en chantant.
Alors la voix est altérée, non?
Bah oui, tout. Tout est altéré. La voix, elle est altérée par un sourire aussi. Et moi, je souris beaucoup quand je chante, quand je suis heureuse. Ma voix, ma manière de chanter est altérée par tout ce qui me traverse en permanence. Je pense que j'ai une voix très émotive.
C'est quoi pour vous, justement, une belle voix? Je me suis demandé. Là, c'est autant à l'auditrice qu'à la chanteuse.
Moi, une belle voix, vraiment, pour moi, c'est une voix... C'est la vérité. Les chanteurs que j'aime, c'est les chanteurs, pas les chanteurs vrais, mais les chanteurs de la vérité, qui, quand moi, leur voix, elle me traverse immédiatement le corps, comme s'il y avait un seul canal qui passait par aucune minauderie, par rien. Quand la voix, elle est brute, elle est pas forcément brutale, mais elle est. Je pense à des chanteuses comme Jaded, je pense à un chanteur comme Dominica qui sont sur mon disque, et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est des gens qui ont la voix vraie.
Et ce canal dont vous parlez, ouais. Vous le visez vous aussi quand vous chantez?
Mais oui, mais c'est vraiment le canal du cœur. J'ai l'impression de chanter avec mon cœur, avec mon corps. Quand je chante, j'ai l'impression que j'ai toute ma cage thoracique qui s'ouvre et je suis offerte en fait. Et je me plug complètement à ce canal et je me branche complètement aux gens. Ou alors si je suis seule à chanter dans une pièce... J'essaie de me pluguer à quelque chose de divin, où je pense à quelque chose. Je chante beaucoup avec mes mains, je ferme beaucoup les yeux.
Ça tient à ça, la vérité.
Ouais.
Quand est-ce que vous avez compris, Izia, que la voix, c'était quelque chose qui se travaillait, quelque chose dont il fallait prendre soin, qu'elle était fragile?
Assez tard, hein. J'ai commencé à chanter très jeune. Déjà, on découvre qu'on a une voix, en fait. Je pense vers 7-8 ans, j'ai découvert ma voix.
Ça s'est passé comment pour vous?
C'était juste en chantant au fur et à mesure et en me rendant compte que ça laissait pas forcément les gens autour de moi indifférents. En me disant, la petite, elle a quand même un truc, quoi. Et pour la plus grande fierté de mon père, ouais, c'est vrai. Et moi, je l'ai cultivé dans ce sens-là. Je chantais sans cesse. J'ai commencé à écrire des chansons très jeunes et j'ai découvert cette voix.
Au point de l'épuiser, quand vous dites je chantais sans cesse.
Après, oui. Quand j'ai commencé à faire des concerts à 15 ans et tout ça, là, je prenais pas très soin de moi, de ma voix. Mais c'est l'adolescence, je pense. On se fiche un peu de tout.
Ça veut dire que vous l'avez perdue parfois?
Oui, beaucoup. Énormément.
Alors, comment on fait dans ce cas-là?
C'était aussi parce que j'essayais en fait de chanter des chansons qui, je pense, n'étaient pas forcément faites pour ma voix. Après, j'ai mué en fait. Non, mais à 15 ans, j'ai écrit des chansons que j'ai chantées. Et à 17-18 ans, en fait, je pense que je pouvais plus vraiment les chanter parce que j'avais mué.
Alors ça, c'est assez passionnant dans l'histoire de la voix, ces variations. En préparant cette émission, vous m'avez dit, Izia, que pendant toute une période récente, vous n'avez pas pu chanter.
Bah oui, enceinte. J'ai pas pu chanter. À partir de mon 7e mois de grossesse, je pouvais plus chanter.
Ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais.
Ouais, non, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas que je pouvais plus chanter, mais c'était pas ma voix. Je pouvais chanter.
Elle était comment ?
Elle était très en haut, comme ça, très... Elle était un peu étouffée, elle était un peu comme ça, en haut. J'avais perdu tout mon bas, tout mon grave, toute la résonance, en fait, qui était occupée par mon enfant. Et du coup, j'étais à cette période-là, j'étais en train d'enregistrer les voix de mon album, donc j'ai dû arrêter, et on s'est dit on reprendra plus tard, et j'ai pu reprendre 6 mois après, je pense.
Et en reprenant, il a fallu réapprendre.
Ouais. Bah ouais, parce que j'avais pas chanté pendant à peu près 6 mois. Donc j'ai repris des cours de chant avec une femme qui s'appelle Martina Catella, qui est passionnante, passionnée, formidable, et qui m'a appris énormément de choses.
C'était la première fois que vous preniez des cours de chant ?
Non, j'en avais déjà pris avant, mais j'avais pas été amenée à cette technique et cette pratique qui tout à coup te fait comprendre des choses. Elle a commencé ses cours en me montrant le corps humain, par où passait l'air. Alors ça peut paraître idiot comme ça, il y a sûrement des chanteurs qui nous écoutent et qui disent oui c'est le béaba, mais moi c'était peut-être des choses qu'on m'avait jamais dites. Et juste qu'en fait, voilà, tout ça c'est des résonateurs et qu'il faut savoir juste en fait visualiser et écouter par où passe le son. Et quand en fait tu mentalises les choses, ça te fait sortir les sons vachement plus facilement.
Et vous avez compris par exemple que certaines habitudes, certains réflexes que vous aviez avec votre voix n'étaient pas les bons et qu'ils pouvaient même vous nuire en prenant ces cours de chant ?
Ouais. Bon, après, à mes 15 ans, tout ça, 20 ans, bon, là, c'était pas top. Mais après, j'ai quand même fait des chansons qui étaient plus adaptées à ma voix. Et du coup, je l'avais de plus en plus appréhendée, en fait. Je l'ai chérie, je l'ai câlinée et je lui ai dit que tout allait bien se passer. Donc, du coup, ça s'est vachement mieux passé.
Vous
entre
en parlez
nous.
Comme une personne. Hein.
Mais oui, mais c'est un peu ça, en vrai. Hein. Elle m'accompagne, sans elle je serais rien en vrai, parce que je saurais pas quoi faire de ma vie, je sais faire que ça.
En la retravaillant, en la réapprenant avec ses cours, après votre grossesse, quelle nouvelle voix est-ce que vous avez fini par découvrir ?
Peut-être à plus lui laisser de temps, à plus la laisser résonner, en fait à moins envoyer, à la laisser, pas moins envoyer, mais à moins essayer de faire des démonstrations ou de... La voix, elle est là, elle existe telle quelle. Parfois, il faut la laisser nue comme ça et juste sortir, voilà, naturellement, je pense.
Qu'est-ce que vous chantiez quand vous étiez toute petite ?
Je chantais beaucoup de gospel et je chantais surtout beaucoup de comédies musicales.
Oh.
Oui. J'étais fan de comédies musicales et en fait, c'est surtout ouais, Le Magicien d'Oz ou Singing in the Rain, la chanson de Debbie Reynolds, You are my lucky star, et tout ça. Et en fait, j'adore ces chansons et j'adore ces interprètes-là parce que c'est tellement plein d'émotions, de richesses, de nuances, parce que c'était des chansons qui servaient une histoire. Donc, il fallait raconter quelque chose. Donc, il y avait une vraie démonstration... une théâtralité.
Vous citiez justement Le Magicien d'Oz, je pense à la voix de Judy Garland. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette théâtralité, justement ?
Elle est tellement fragile et tellement, tellement forte à la fois. Enfin, là, le canal, il est encore une fois hyper vrai, quoi.
canal.
Ouais, mais j'aime bien cette idée de canal, en fait.
J'adore cette idée, moi aussi.
Ouais, enfin, vraiment, je le visualise comme ça, un espèce de grand tube lumineux qui sort de son cœur, quoi.
Un petit chemin de briques jaunes.
Mais oui, un chemin de briques jaunes, c'est ça. Et d'ailleurs, je prenais des cours de comédie musicale, et moi, je pense que Somewhere Over the Rainbow, j'ai énormément chanté cette chanson, et je prenais des cours de comédie musicale, et je voulais absolument jouer on montait Le Magicien d'Oz, et je rêvais d'être Dorothée pour pouvoir chanter. Et non, quoi, j'ai été le bonhomme de paille, et je devais celui qui saute partout et qui n'a pas de cervelle. Alors bon, bah ouais, je l'ai pas très bien vécu au début, après j'ai compris pourquoi on m'avait choisi pour ce rôle.
Vous savez quoi, on va se faire un cadeau mutuel. Oui. Pour moi, vous êtes Dorothy ce matin et vous allez emprunter le petit chemin de briques jaunes qui mène jusqu'au micro pour nous chanter en direct Somewhere Over the Rainbow.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true.
Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles make like lemon drops way above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why, oh, why can't I? Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Over the rainbow, why, oh, why can't I?
La chance quand même d'entendre Isia chanter Somewhere Over the Rainbow, chanson qui a été l'une des plus reprises dans l'histoire de la musique pop. À quelles images est-ce que vous l'associez, vous, pendant que vous chantez? Quelles images vous reviennent immédiatement?
Parlons, ça m'émeut un peu.
Oh.
Parlons.
On a le temps. Donnez-moi la main, je vous l'attends. Qu'est-ce que vous voyez?
Bah rien, c'est une chanson, ça me rappelle beaucoup... Beaucoup mon enfance, beaucoup mon enfance, beaucoup mon père, tout pourquoi je me suis mise à chanter. J'ai beaucoup chanté cette chanson sans savoir un jour que j'allais peut-être faire ça. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas chanté devant des gens comme ça. Je pense c'est une chanson vraiment très belle et c'est ouais, je me revois dans ma chambre à la chanter. Avec tout mon cœur, et puis j'ai fait des claquettes après parce que j'aimais, je voulais trop être, Dorothy ou Jane Kelly ou tous ces gens. J'étais le putain de bonhomme de Paris. Mais non, mais
c'est une chanson compliquée aussi. Quelle difficulté est-ce qu'elle représente pour la chanteuse que vous êtes?
C'est, je la connais tellement par cœur. Bon là, je me suis trompée à plein de moments, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais je sais pas, c'est tellement romanesque, c'est tellement doux, c'est tellement agréable. Enfin, vraiment de la chanter, c'est comme un petit voyage, quoi. Et en fermant les yeux là, en chantant, c'est vrai que je me suis revue à plein. Ouais, c'est beaucoup d'images. De toute façon, les chansons, c'est vraiment des valises avec des souvenirs. Il y a que avec ça qu'on peut avoir autant de. Ça nous rappelle des odeurs, ça rappelle des moments. C'est très précieux, une chanson, pour ça.
Et la chanter a cappella, je me pose la question, qu'est-ce que ça change?
Bah, c'est d'autant plus vertigineux, parce que c'est sans filet, on sait pas trop. En même temps, c'est ça que j'aime bien dans ces chansons-là, de ces années-là, et dans celle-là en particulier, c'est que, il y a une espèce d'anarchie du rythme, en fait. C'est comme si tu pouvais faire absolument ce que tu voulais.
D'ailleurs, elle a été reprise en jazz.
Bah ouais. Oui, mais même, en fait, quand tu la chantes a cappella, comme ça, c'est ça qui est hyper hyper c'est da je da me, tu peux tout étirer comme tu veux, c'est comme une promenade, et puis après tu cours, tu dévales, tu te rattrapes, tu remontes, c'est une danse aussi comme ça.
Je me pose la question, quelle est la chanson à votre avis la plus difficile que vous ayez eu à chanter de votre vie? Vous souvenez?
Je pense pas qu'il y ait de chansons difficiles, je pense qu'il y a des moments difficiles à chanter des chansons, plutôt des moments très très émotionnels, ou alors des moments où je suis en concert et je sens que je suis assez fatiguée, et tout à coup je sais qu'il y a cette putain de note là, et en même temps ça crée des moments magnifiques. Par exemple à la Cigale, là récemment, c'était la dernière date de la tournée, j'avais la voix très fatiguée, j'étais pas à faune mais j'avais la voix très fatiguée, et le concert commence à se passer et là il y a Let Me Alone qui arrive, qui est une chanson hyper rock et qui est plus trop dans ma tonalité, et là je me la casse quoi, un peu quoi. J'avais peur, quoi. Et je me casse la voix un peu. Et là, je me dis, oh putain, ça va commencer à devenir compliqué, quoi.
Pour les chansons suivantes,
Ouais. Et puis c'était la quatrième chanson du set, donc il en restait une dizaine. Et en fait, ça avance comme ça. Bon, je m'en sors plus ou moins. La chanson d'après, c'est difficile, mais bon, j'y vais, quoi. Et les gens en face commencent à sentir que je fatigue, moi, et que c'est un peu compliqué. Mais que je donne quand même tout ce que j'ai. Et donc, ça crée tout à coup un espèce de moment, mais tellement hors du temps, tellement intime. Parce que tout à coup, on est main dans la main, Et tout à coup, c'est l'émotion et c'est la lutte. Mais c'est même pas une lutte parce que, mais c'est juste y arriver. Et tout à coup, les gens, ils te soutiennent, ils sont avec toi et on a l'impression, on vit quelque chose ensemble de particulier. On doit s'aider. Et puis à un moment, il y a cette chanson qui arrive, qui s'appelle Sugarcane, qui est vraiment haute et tout ça. Et j'ai l'impression d'être au pied d'une montagne. Et je me dis, mais je vais jamais y arriver, quoi. Et en fait, je passe les étapes de la chanson. Et donc, on est dans une émotion forte. Et alors, il y a même un moment où je la prends a cappella et les gens se soutiennent. Et j'arrive à la fin du truc et j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Et là, les gens applaudissent et on est ensemble et on se regarde dans les yeux et on se dit, putain, on vient de faire un truc ensemble, quoi. Et c'est vraiment magique.
On va rester dans l'émotion. Il y a une voix que j'aimerais vous faire entendre. Cette voix, vous la connaissez mieux que personne. C'est celle de Jacques Higelin qui nous fredonnait Débit de l'eau, débit de lait de son cher Charles Trenet. C'était le 12 octobre 2015 à ce micro. On écoute et on en parle.
Dans ma rue, il y a deux boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau. Dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique. Mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant pam, 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 ah, qu'il est beau le débit de lait. Ah, qu'il est laid, le débit de l'eau.
Débit de l'eau, si beau. S'il est, débit de lait, si beau.
Débit de l'eau, s'il est. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Dans le débit de l'eau, il y a la belle Babée. Dans le débit de lait, il y a le beau Bobby. Ils sont tous deux gentils, chacun de leur côté. Mais le Bobby et la Babée sont ennemis. Et ils se battent à coups de beau bidon. Chez le Bobby et la Babée, allez donc.
Mais quel moment génial! Et vous chantez en duo avec lui, là? Qu'est-ce que vous entendez dans sa voix, là?
Ah, il est. Sa voix, elle est. C'est vraiment. Oh là là. Il a vraiment une voix de petit garçon, quoi.
Ah oui?
Mais mon père, il a toujours gardé. J'ai l'impression que plus il vieillissait, plus dans sa voix, il y avait un petit garçon qui ressortait.
Et il en prenait soin de sa voix, lui?
Bon, pas trop, non. Non. Non, il prenait pas trop soin de sa voix. Il l'avait beaucoup, il la cassait souvent.
Vous en parliez, parfois, de
ouais.
Voix?
Ouais. Bah, il voulait aller souvent trop haut. Non, mais c'était, parce que je lui parlais beaucoup et il m'écoutait souvent. Et après les concerts, je disais, mais pourquoi tu veux toujours aller faire des et monter là comme à la fin, il fait papa, je le reconnais tellement, il veut toujours aller trop haut. Et à chaque fois, je disais, mais pourquoi tu baisses pas ta voix? T'as des graves tellement sublimes. À chaque fois, je lui disais, tu vois là, quand tu fais ça, même je repassais les concerts en disant, tu devrais prendre plus bas au lieu de monter tout de suite. Il me disait, mais ouais, putain, t'as raison, c'est vrai. Et puis après, il recommençait.
Il t'arrivait souvent que vous chantiez ensemble petite. Qu'est-ce que vous chantiez avec lui? Dans la cuisine le matin, dans la voiture, dans votre chambre, vous vous souvenez?
On faisait beaucoup d'improvisations dans des langues qui n'existaient pas. Quand j'avais 6-7 ans, dans un espèce de faux italien. Alors ça, je le raconte souvent, mais c'est vrai qu'on faisait ça beaucoup. Il jouait, je chantais, mais jusqu'à très tard. À chaque fois qu'il était au piano, je m'approchais de lui. On avait fait une chanson récemment, mais bon, elle existera peut-être un jour.
Pourquoi vous ne l'avez pas mise dans votre album, celle-là?
Ça, c'est une chanson qu'il avait faite. Il en avait même parlé à Rodolphe Burger. Il faudrait que ça existe, ça, un jour. Puis même moi, j'avais chanté une chanson. Et puis, un peu vers la fin, où c'était un peu compliqué pour lui de chanter parfois, je m'étais mise au piano et il ne me parlait plus trop. Et pourtant, je lui joue pour la première fois une chanson que j'ai composée. Et il a repris le thème avec moi. Et on était hallucinés avec ma mère. On s'était dit, mais c'est pas possible. Et il chantait le truc et on l'a chanté tous les deux. Ça aussi, j'aimerais bien l'utiliser.
C'est un titre de Citadelle, votre quatrième album, un titre qui s'appelle Idole, que vous avez souhaité nous chanter ce matin, un titre dans lequel on a du mal à ne pas entendre une référence à votre père, justement.
Oui.
Elle lui est dédiée?
Oui, mais bon, c'est une chanson que j'ai écrite parce que j'étais en colère et j'étais frustrée de ne pas pouvoir parfois rentrer en communication avec lui. Et quand je parle de mon idole, évidemment, c'est une référence à mon père, mais c'est aussi une référence à une idole à laquelle on dépose des offrandes, des tapis de perles et des choses pour prier que les choses s'arrangent. Mais voilà.
Le petit chemin de briques jaunes s'est changé en tapis de perles. Je vais vous demander de l'emprunter, de rejoindre le piano où s'est installée Julia Jérôme qui vous accompagne et qui nous rejoindra peut-être après ce live. Idole, piano-voix, c'est un cadeau juste pour nous dans Boomerang, évidemment. Accompagnée de Julia Jérôme au piano, en direct, sur France Inter. Elle a quelque chose de tellurique, hein. Quelque part entre Janis, PJ, Courtney et grand-mère Feuillage, étrangement, la solidité, la générosité, la souplesse aussi, le cheveu sauvage, l'œil pur sang, le geste guépard des neiges, toujours prête à bondir, à vous étreindre ou à invoquer les esprits en levant les bras au ciel et en vous invitant à se joindre à elle dans un pogo de désir et d'extase avec sa veste en jean noir ce matin et ses boots, la chanteuse Isia, donc invitée de Boomerang, pour une émission autour de la voix. Votre pianiste, Julia Jérôme, nous a rejoint. Bonjour Julia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que vous avez insisté pour que ce soit Julia qui vous accompagne ce matin?
Mais Julia, elle m'accompagne tout le temps sur scène. Et puis dès qu'on a une petite promo à faire toutes les deux, elle est toujours près de moi. Et Julia, elle vient du classique, du chant lyrique. Donc elle connaît bien la voix aussi, très très bien la voix. Et depuis qu'elle nous a rejoint sur la tournée, c'est vrai que c'est vraiment génial d'être ensemble sur la route, au-delà du fait que c'est une grande musicienne et une grande artiste. On est ensemble dans les loges, on s'échauffe la voix ensemble, on fait des petits exercices comme ça. En fait, sa présence est extrêmement rassurante pour moi. J'ai l'impression d'avoir un grand docteur très professionnel à mes côtés en permanence.
Auprès des chanteurs que vous accompagnez, Julia, quel rôle est-ce que vous avez l'impression de jouer? Parce que là, c'est inquiétant. Vous seriez psychanalyste gourou. Et doctoresse ou gourou.
Ouais. Oh, j'essaie de le moins m'imposer si c'est possible, vraiment. Mais après, si on me demande des conseils, je suis toujours là. Enfin, j'ai fait beaucoup d'années de conservatoire, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais j'essaie vraiment de voilà, si on me pose des questions sur la technique, purement technique, voilà, je peux répondre. Après, ce dont elle parlait, le canal du cœur, ça c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, malheureusement.
Alors justement, là, mais... la première fois que vous avez entendu Izzy chanter, vous êtes dit quoi? C'était où déjà? C'était peut-être dans votre voiture ou...
La première fois que je t'ai entendu chanter, je crois que c'était... Non. Ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on se croise. Au début, on se rencontrait en soirée, tout ça. Je crois que la première fois que j'ai entendu chanter, c'était à une soirée où il y avait une jam. Et je me suis pris ça dans la gueule et j'ai fait... Waouh, ouais, ça fait des frissons, ça fait...
Parce que vous avez entendu quoi?
Je sais plus, tu devais chanter un truc. Bon, peut-être j'ai attrapé un coup de soleil ou quelque chose comme je sais pas.
Un classique.
Un classique, voilà.
Moi-même, je la chante plus souvent qu'à mon tour dans les soirées.
Non, mais j'ai des petites chansons comme ça que j'aime bien chanter. Ouais. Des points de repère, c'est cool, ouais.
Quand vous dites que vous lui donnez des conseils, quel genre de conseils est-ce qu'elle vous donne, Izzy, Julia?
Non, mais en fait, il y a des moments où je stresse, où je suis avant les concerts, où j'ai l'impression que j'ai la voix cassée, elle me fait faire deux, trois trucs, on fait, c'est bon, allez, c'est bon.
Je suis sûr qu'elle ne vous fait pas faire exactement ça, et j'ai vraiment envie de savoir, faut que vous montriez. On est dans une émission sur la voix, alors Julia, dites-nous.
Alors, on peut faire on fait des exercices tout bêtes. Après, le truc le plus important, et qu'on oublie souvent, et tu en parlais tout à l'heure, c'est le corps. Le corps est très important chez les musiciens aussi. On a tendance à l'oublier, et donc du coup, on se fait des petits, alors c'est très pratique à la radio, on voit bien ça, mais voilà,
on se tapote le buste,
les omoplates, tout ça, enfin un peu, voilà, histoire d'être un peu chaud, de faire résonner les résonateurs, quoi.
Tout en parlant, tout en
en chantant, en disant yeah, des choses comme ça, des sirènes. Après, on a quelques exercices qu'on fait un peu.
La sirène pour tous les éditeurs et auditrices de France Inter à utiliser. Quoi d'autre?
On a des. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on a. Alors il y a quelque chose qui est très bien quand on est vraiment fatigué, qu'on n'a pas envie de se chauffer plus que ça, parce que se chauffer à outrance.
Parce qu'il y a des moments où on n'a pas très envie de se chauffer. Pas bon non plus.
C'est que moi, je vais le faire tous les matins, là, maintenant.
Mais avant de jouer, parce que après, quand on est en tournée aussi beaucoup et quand on joue quatre fois par semaine, des trucs comme ça, c'est vrai qu'au final, la voix, elle est quand même prête. Enfin, on rentre dans une habitude où on est quand même assez prêt pour chanter. Après, il y a des moments où on se sent prête, on fait deux, trois petits exercices, pas plus que ça, et puis après, on se lance, quoi.
Et alors, qu'est-ce que c'était ce petit cote-cote que j'ai vu se dessiner?
Ah oui, alors le petit cote-cote, en fait, c'est l'accolement des cordes vocales. Okay. Parce que la corde vocale, donc, vibre pour faire le son, pour parler, chanter, crier, peu importe. Et quand on est fatigué, elles ont tendance à pas s'accoler. Donc, ça fait des petits... Vous voyez, ce genre de bruit.
Je vois très bien.
Et donc, pour essayer de faire en sorte que les cordes s'accolent plus facilement, on fait un bruit. Alors, ça est difficile à expliquer quand même, mais c'est... Ouais. Voilà. On fait un petit A tout petit et on le dit pas, mais on fait.
Je vais le tenter chez moi. Je vais pas le tenter maintenant. Je vais le tenter chez moi et
c'est
je le ferai.
Facile.
Et oui, c'est des petits.
Et tout doux. Et comme ça, voilà, les cordes vont.
Les cordes se.
Julia, vous avez l'habitude d'accompagner des chanteurs et des chanteuses lyriques. Et quelle est la spécificité de ces voix par rapport à la voix d'une chanteuse comme Izzy, justement?
J'en ai accompagné un peu et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a toujours le côté technique, comme ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est. On a tendance, surtout quand on est au conservatoire, à se prendre un peu la tête sur la technique, tout ça, et à oublier le canal dont tu parlais. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant et facile d'accompagner quelqu'un comme Izzy, qui est tellement brute, comme elle disait, mais pas brute, brute de décoffrage, dans le sens où elle est sur une sensibilité tellement externe que on ne peut qu'accompagner facilement ce genre de personne.
Izzy, le chant lyrique, vous avez essayé, vous, déjà?
Non, mais c'est vrai que ma professeure de chant, Martina, elle me disait qu'avec la voix que j'avais, je pouvais un peu essayer plusieurs choses. C'est vrai qu'elle voulait un peu m'amener
après,
à ça.
Après, le bonhomme en paille, Traviata.
Mais en fait, c'est vrai que je sais plus ce que je suis. Toi, tu sais ce que je suis, Julia, mais j'ai oublié ce que j'étais.
T'es une soprane. Enfin, tu montes très aiguë facilement et tu descends très grave. Donc,
En fait, du coup, c'est vrai qu'avec ma voix, je peux aller dans pas mal d'endroits et c'est assez. C'est assez intéressant, mais c'est pour ça que je pense que j'ai aussi mimé pas mal de chanteuses, voilà, comme Judy Garland, ou alors même j'ai imité un paquet de chanteuses, mais incroyable. Enfin, je faisais des spectacles à ma mère où je chantais du Pink, du Christina Aguilera, du Britney, et je faisais toutes les voix, quoi. J'avais l'impression que je pouvais aller au point virgule la semaine d'après et monter un spectacle. Et j'adore faire ça avec ma voix. J'ai l'impression vraiment que je peux lui faire un paquet de trucs. et lui faire faire plein de choses. Et c'est génial et de encore progresser, de encore l'amener ailleurs. Et en même temps, le canal dont on parle, il y a les moments où je suis fatiguée, où je vous racontais l'anecdote tout à l'heure à Cigale. D'ailleurs, c'est des moments aussi tellement précieux où, en fait, évidemment que ma voix, si elle n'est pas là, c'est compliqué. Mais quand elle est moins là, je sais que je peux me rattacher juste aux sensations, aux sentiments, au plaisir d'être là. Et que le canal qui va transporter tout ce que j'ai pour les gens, tout ce que j'ai pour le moment que je suis en train de vivre, il peut complètement prendre le dessus et exister tel quel, quoi. Donc, j'ai tellement de plaisir et tellement d'amour à chanter pour les gens que même quand ma voix me fait un petit peu faux bond, je sais que la vérité passe.
C'est beau parce qu'on a commencé comme ça et on va terminer comme ça. Votre voix, elle est là ce matin. Pour conclure cette émission, vous avez choisi de nous interpréter toutes les deux a cappella la reprise d'un gospel qui est une chanson traditionnelle en fait américaine qu'on peut trouver dans le film des frères Cohen, Oh Brother Where Art Thou. Elle s'appelle Down in the River to Pray. C'est à vous deux.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who should wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who should wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who should wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who should wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you want to go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who should wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who should wear the robe and crown, good Lord, show me the way.
Mais moi j'applaudis, là. Même si je suis tout seul dans le studio à applaudir, j'applaudis quand même. Merci infiniment Isia et Julia Jérôme à vos côtés ce matin pour ce boomerang aussi généreux qu'inédit. Merci aussi à Julien Dumont et Ludovic Asselot à la technique ce matin. Je rappelle que votre dernier album Isia s'appelle Citadelle, que vous serez ce soir en direct du studio 104 à la Maison de la Radio pour un concert exceptionnel aux côtés de Flavien Berger et Malik Joudi, triple affiche. Et vous êtes également Isia en tournée dans toute la France. On vous retrouvera également le 1er avril à l'Olympia.